Le débat africain, Alain Foucault.
Depuis la crise alimentaire de 2008 qui a déclenché une véritable flambée des prix des céréales, les terres de l'Afrique font l'objet d'une offensive des grandes multinationales de l'agro-business. Et le phénomène de l'octroi, de la vente et de la location des terres, bref, de ce que l'on a appelé l'accaparement des terres, s'est amplifié, après une tournure inquiétante. Avec des dizaines de millions d'hectares achetés ou loués à vil prix pour un siècle et des paysans expulsés sans ménagement de leurs terres, souvent sans indemnisation, au profit de firmes qui cultivent des produits globalement pour l'exportation ou pour le biocarburant. Comment moraliser ou réguler cette course effrénée à l'acquisition facile des terres dans les pays pauvres? Suite de notre débat africain consacré ce dimanche à ce sujet, avec plusieurs invités, tous au téléphone. D'abord, Monsieur Roland Ravatoumang, le ministre de l'Agriculture de la République de Madagascar. Il est en direct dans On en arrive. Second invité, Monsieur Olivier Tschouter, qui est le rapporteur spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Il est en direct, lui, de Rome en Italie. En direct également de Dakar, cette fois-ci au Sénégal, Monsieur Mamadou Bitey, le directeur régional d'Oxfam, l'une des plus importantes confédérations internationales d'ONG. Notre dernier invité est Samuel Guifotene, le responsable du Centre pour l'environnement et le développement au Cameroun, qui travaille sur les questions des ressources nationales et de justice. Il est, lui, en direct de Yaoundé, au Cameroun. Le Cameroun où d'ailleurs un autre scandale d'accaparement des terres défraie la chronique, celui de l'octroi, ou plus précisément de la location par l'État, à une compagnie américaine de 73 086 hectares pour un bail foncier de 99 ans, à 1 dollar pour les terres mises en valeur et 50 cents pour celles non mises en valeur. Autant dire que c'était un bail gratuit. La compagnie qui promet de créer 7500 emplois va produire sur ces terres non pas des produits vivriers, mais du palmier à huile. Une affaire qui fait grand bruit, dont vous avez été, Samuel Guifotene, l'une des ONG qui a révélé l'histoire au grand public. Je sais qu'il y a dans le même temps beaucoup de rumeurs sur ce type de question qui se fait généralement dans l'opacité. Cette information est-elle avérée? Est-elle vraie? Le gouvernement camerounais a-t-il réellement bradé plus de 70 000 hectares de ces terres, presque au franc symbolique, comme on le dit?
C'est exactement cela. Un contrat de 99 ans, un loyer de la terre très bas, entre un demi-dollar et un dollar, et le tout dans une opacité. On n'a pas vu de contrat jusqu'à ce qu'il apparaisse sur un site internet à l'étranger. Les gens sur place avaient entendu parler de transactions, mais n'avaient pas été informés de manière officielle. Donc ils ne savaient pas si c'était vrai ou pas. Alors, c'est pas une rumeur, parce qu'on a eu à parler à la compagnie. Elle existe. Sur son site internet, elle indique effectivement qu'elle va faire une plantation de 70 000 hectares dans la zone. Et cela pose plusieurs problèmes, qui pour nous illustrent de manière évidente le problème des accaparements fonciers.
Alors, Monsieur Nguifotene, lorsqu'on dit que ces Américains ont déjà commencé à travailler sur le terrain, c'est vrai? Est-ce qu'on peut les rencontrer sur ces terres?
Oui, ils ont commencé à défricher les terres, ils ont installé des pépinières, ils ont commencé à défricher la forêt, effectivement, ils ont recruté des personnes, ils sont installés, la plantation a démarré.
Ils ont engagé du monde sur place?
Ils ont engagé une main-d'œuvre locale, ils ont également fait venir des travailleurs de l'étranger. Donc, de toutes les manières, sur place, on peut voir des opérations. Ils ont commencé, ils l'ont dit, et la plantation est en cours. Simplement, cela pose quelques problèmes. Ils n'ont pas de contrat de location de la terre. Il n'y a pas eu un décret présidentiel leur attribuant la terre comme l'exige la loi camerounaise. Et pour nous, ça fait problème. Il y a eu en avril une mission du ministère des Forêts qui a estimé qu'ils coupaient illégalement la forêt parce qu'ils n'avaient pas d'autorisation. Et on s'est rendu compte par la suite que ce dossier, bien qu'il existe un procès verbal de constat d'infraction, ce dossier n'a pas suivi son cours normal. Il n'y a pas eu de sanctions prises contre la compagnie pour exploitation illégale de bois. Donc là, on se trouve en face d'une situation très particulière d'une compagnie qui ne respecte pas la loi camerounaise et qui poursuit ses opérations dans la plus grande indifférence, malgré le fait que la loi soit violée, malgré le fait que la contrat.
Oui, mais pourrait-elle être aussi sûre d'elle, pourrait-elle le faire si elle n'avait pas les garanties de l'État? Est-ce qu'une entreprise lambda peut s'installer sur place et exploiter le bois sans que l'État ne réagisse s'il n'y a pas un contrat?
Alors, il y a un contrat, mais pas un contrat qui lui indique une superficie à exploiter. Il y a une sorte d'accord, c'est une convention d'établissement qui permet à la compagnie de venir opérer au Cameroun dans la plantation du palmier à huile, mais qui ne lui indique pas une portion de terre à exploiter. Et il n'y a aucun document qui leur demande d'exploiter cette partie précise du territoire national. C'est cela qui pose problème. C'est ce sentiment de cette opacité, mais en même temps le sentiment, l'impression qu'on a de voir une compagnie au-dessus des lois qui nous inquiète et nous fait nous poser des questions. Parce que quand on relit leur contrat, par exemple, on se rend compte qu'ils disent que le contrat est réputé être conforme à toutes les lois camerounaises, mais qu'en cas de conflit entre la loi camerounaise et le contrat s'appliquera. Ça, c'est grave. On peut aller plus loin que cela. Parce que dans le cas du Cameroun et dans le cas des autres pays avec des projets de cette nature, on a le signal qu'on envoie à des investisseurs, c'est plutôt on peut tout faire dans un pays comme celui-ci. Le fait que la loi existe ne veut pas dire grand-chose finalement. C'est très bien pour les spéculateurs qui ont besoin d'un environnement avec un très grand déficit de gouvernance, mais c'est pas du tout intéressant pour des compagnies qui ont envie de s'installer véritablement à long terme.
Mais que vous disent les autorités lorsque vous leur posez la question ?
On n'a pas de réponse. On a envoyé des lettres. Il y a eu de nombreux articles dans la presse, mais il n'y a pas eu une position officielle du gouvernement sur cette question.
C'est vrai que lorsqu'on a contacté les autorités pour participer au magazine, nous avons reçu une fin de non-recevoir. Personne n'a voulu parler. Alors, monsieur le shooter, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous écoutez cela ?
Écoutez, j'ai eu l'occasion de me rendre au Cameroun en juillet dernier. J'étais frappé de voir que depuis 2000, depuis une dizaine d'années, c'est plus de 300 000 hectares qui avaient été cédés à des investisseurs étrangers, essentiellement pour l'exploitation de palmiers à huile. Et on a aujourd'hui des investisseurs encore plus nombreux qui se pressent aux portes du Cameroun. On parle d'un million d'hectares qui seraient au fond en train d'être négociés. C'est inquiétant parce que pour l'instant, le cadre n'est pas de nature à protéger les droits des populations. Et je considère que les conditions ne sont pas réunies pour que ces investissements bénéficient véritablement aux communautés locales. C'est vrai que quelques emplois seront créés, mais à côté de cela, il y a beaucoup de populations qui seront davantage marginalisées et ce sont les meilleures terres qui seront finalement appropriées sans que ceci bénéficie aux plus pauvres dans les zones rurales. Je considère que par conséquent, il faut que le Cameroun améliore son cadre normatif et que les conditions qui soient imposées aux investisseurs soient plus strictes, de nature à permettre de recueillir davantage de bénéfices pour la population de l'arrivée de ces investisseurs.
Que font les Nations Unies pendant ce temps-là ? Que font-elles ? Est-ce qu'elles n'ont pas un moyen de, ben au moins de faire pression sur ces États-là pour que ça arrête ces accaparements de terres ?
Alors, c'est une question qui inquiète la communauté internationale et c'est vrai que certaines initiatives ont été prises. Notamment, on a adopté au sein du comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui est un comité qui est extrêmement représentatif non seulement de l'ensemble des gouvernements, mais également des agences internationales, des ONG, des organisations de producteurs et du secteur privé, un ensemble de lignes directrices sur la gouvernance responsable du foncier, de la pêche et des forêts qui ont été adoptées en mai dernier. Et ces directives prévoient que le Parlement doit être associé à toute négociation avec les investisseurs qui veulent investir dans le foncier. Ces directives prévoient également que l'État doit faire en sorte que la concentration agraire ne s'aggrave pas. Il doit donc travailler à des politiques d'accès équitable à la terre, notamment pour les petits agriculteurs. Et essentiellement, ce sont des directives qui invitent à davantage de transparence et qui invitent les gouvernements à négocier des meilleures conditions qui profitent aux communautés locales.
Alors, M. Bitey, en Afrique de l'Ouest, on constate également qu'il y a pas mal de demandes dans ce sens-là. Est-ce que vous avez un moyen de les stopper un peu ? Quelles sont les règles qu'il faut mettre en place pour mettre fin à cet accaparement de terres qui s'amplifie ?
Moi, nous pensons que la Banque mondiale doit avoir un rôle extrêmement important à jouer. Nous avons noté que les investissements de la Banque mondiale ont augmenté dans le domaine justement de projets d'agribusiness qui facilitent justement l'acquisition des terres à grande échelle, a augmenté considérablement d'environ 2,4 milliards de dollars en 2002 à entre 7 et 8 milliards de dollars. Donc, La Banque mondiale, à travers la Société financière internationale qui fait ces prêts-là, a un rôle extrêmement important à jouer. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons le gel, justement, de ces prêts-là pendant 6 mois afin d'évaluer l'impact des projets qui ont été financés, d'en tirer les leçons nécessaires avant de reprendre cette activité de manière responsable.
Mais que vous répond la Banque mondiale lorsque vous lui demandez de mettre un terme à ces prêts-là, au moins de les suspendre pendant un petit moment?
Ils sont d'accord sur le phénomène. Ils sont d'accord sur les impacts potentiels, sur l'accroissement de la pauvreté et l'aggravation des crises alimentaires. Mais ils pensent que le gel n'est pas la solution.
Et pour eux, la solution, ce serait quoi?
Ils disent tout simplement que le gel n'est pas la solution, qu'il faut réfléchir et trouver d'autres solutions. Mais à côté de la Banque mondiale, je pense également que les pays africains eux-mêmes ont une responsabilité par rapport à cela. Mm-hmm. Le Parlement de l'Union africaine a récemment donné le feu vert pour un moratoire sur la vente des terres pendant un an afin d'étudier ce phénomène et de légiférer en conséquence. Donc nous espérons que le sommet des chefs d'État de l'Union africaine approuvera ce moratoire et donc l'appliquera.
Justement, vous parlez de la responsabilité des dirigeants africains eux-mêmes. Est-ce qu'ils ne sont pas les premiers? Parce que dans l'accaparement des terres, on parle peu des autorités, des personnalités locales qui, elles aussi, bénéficient de cet accaparement des terres, non?
Ben oui, je pense que c'est la responsabilité des chefs d'État, des dirigeants, mais c'est une responsabilité aussi collective. Parce que il faut effectivement que les populations et leurs dirigeants, leurs leaders au niveau local, effectivement se mobilisent contre ce phénomène-là et amènent justement nos dirigeants à développer, à approuver en fait les politiques idoines pour s'assurer que les terres africaines servent à assurer l'alimentation et la satisfaction des besoins de leur population en premier.
Alors, Monsieur Ravatoumang, vous qui êtes ministre de l'Agriculture à Madagascar, lorsqu'on écoute tout ceci, on a l'impression que ceux qui arrivent sont tous des escrocs, sont toutes des personnes qui veulent recoloniser l'Afrique, comme on dit certains. Mais s'ils vont vers des terres, c'est qu'il y a pas mal de terres qui restent inexploitées, et alors qu'il y a de la famine dans le pays.
Exact. Ce ne sont pas les terres non cultivées, non exploitées qui manquent dans les pays africains, y compris Madagascar. Mm-hmm. Et moi, je pense que parler des autorités qui, à titre individuel ou à titre collectif, voudraient ou se sont accaparées de terres, je ne pense pas que ça soit un grand problème parce que, dans ce cas-là, ça se saurait tout de suite et, en tout cas, au pire des cas, ce ne sont jamais des accaparements de terres de grande superficie, ça se limiterait à tout casser à 10, 20 ou une centaine d'hectares. Ça, c'est la première remarque que je ferai. Par contre, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que, effectivement, les terres africaines, les terres malgaches en particulier, que je connais mieux, demandent à être exploitées. Mmh. Il y a des centaines, voire des millions d'hectares inexploités pour le moment. Donc, ça me fait revenir à notre discussion du début, mm-hmm. à savoir, il faudrait étudier les modalités d'acquisition et surtout le partenariat sous quelque forme et quelle que soit l'appellation, mais en tout cas basé sur un partenariat avec la population locale. Je m'explique. Si une multinationale veut exploiter des terres, je n'ai rien contre, mais à condition que cette exploitation se fasse dans des conditions acceptables et acceptées par la population locale. Donc, pour résumer, il faudrait que tout le monde ensemble, les partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, le FIDA, pourquoi pas la FAO, la BAD et tout le monde, les bailleurs de fonds en général, s'impliquent sérieusement dans une étude de comment exploiter ces terres-là pour qu'elles ne restent pas inutilisées. Donc, non productive pour personne et pour tout le monde, mais par contre, que ces mesures soient bien étudiées et en tout cas impliquant systématiquement et impérativement la population locale si nous voulons développer l'Afrique, si nous voulons développer l'économie de nos pays respectifs.
Alors, Ngifotene Samuel, lorsque vous écoutez le ministre dire cela, est-ce que ça n'est pas un peu excessif de penser qu'il va falloir légiférer un peu plus, de façon un peu plus dure sur l'octroi ou la vente des terrains aux étrangers? Est-ce que ça ne risque pas de plomber l'économie et l'agriculture de ces pays-là, puisqu'il faut aussi des grandes firmes pour aider les agricultures locales?
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes et qu'il faut se pencher sur ces problèmes en les essayant de manière très précise. Le premier problème, c'est celui des accaparements de terres. Il y a effectivement beaucoup de firmes étrangères, et c'est ce dont nous parlons en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'élites nationales qui sont impliquées dans le phénomène, et en légiférant sur les acquisitions de terres par les étrangers, on résout effectivement une partie du problème, mais pas celle qui concerne les acquisitions foncières par les élites nationales. En termes de proportion, elle n'est pas aussi importante que la première, je le consens. Le deuxième problème que nous avons, c'est celui de l'attraction des investisseurs étrangers. Et là, on a l'impression que les investissements dans le secteur agricole sont importants et peuvent aider à doper la croissance. Je n'en suis pas très sûr, au moins parce qu'on n'a pas fait d'études détaillées sur les plantations existantes, les agro-industries existantes sur le continent. Pour ce que j'en sais, la plupart de ces compagnies exportent.
C'est pas consommé sur place.
Non, c'est pas pour la plupart. Dans la plupart des cas, il s'agit de cultures de rente et c'est destiné à l'exportation. Donc la plus-value, en général, se fait à l'étranger. Et ce qui reste dans le pays, en comptant toutes les exonérations prévues par les contrats, c'est la portion congrue des revenus, des bénéfices de ces investissements. Mais je pense que c'est important aujourd'hui, pour arriver à définir une politique pour l'avenir, de procéder à une analyse de toutes les agro-industries existantes et de voir quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer pour l'avenir. Le troisième problème, c'est le problème de la sécurité alimentaire.
Rapidement.
Et on a souvent l'impression qu'on fait venir des compagnies étrangères pour contribuer à résoudre la question de la sécurité alimentaire. Personnellement, à partir des expériences que j'ai visitées, j'ai l'impression qu'on aggrave les problèmes de sécurité alimentaire en développant certaines de ces agro-industries de manière peu prudente, comme je l'ai vu jusqu'ici. Parce qu'on transforme les agriculteurs qui, hier, étaient des agriculteurs petits, mais parfois très prospères, on les transforme en ouvriers agricoles précaires. Et ça, c'est un problème aujourd'hui. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une piste qu'on n'a pas suffisamment explorée. Je voulais terminer par là. Je crois qu'il faut arriver à réfléchir à la meilleure manière de financer, d'appuyer les petites exploitations agricoles. Nous avons fait des études qui montrent qu'il vaut mieux pour un paysan de développer lui-même des plantations sur 1 ou 2 hectares plutôt que d'être ouvrier agricole. À la fin de l'année, il arrive à obtenir jusqu'à 1,8 à 2 fois le revenu d'un ouvrier agricole qui travaille pour une plantation. Et nous avons procédé à cette étude autour de quelques plantations. Donc je pense que là, on pourrait avoir la possibilité de replacer le planteur au centre de la quête de la souveraineté alimentaire dans nos pays. Souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, plusieurs pays, dont le Cameroun, étaient autosuffisants et cela a été construit à force des petits planteurs.
Alors, Monsieur Olivier de Schutter, lorsqu'on écoute Monsieur Ngifotene Samuel, pour lui, l'agriculteur africain peut produire pour nourrir l'Afrique.
Écoutez, l'agriculture vivrière, celle qui permettrait de nourrir les communautés locales, a été pendant 30 ans négligée. Elle a été négligée parce que ces pays ont été peu à peu habitués à des prix bas sur les marchés internationaux, leur permettant d'importer des denrées alimentaires à bas prix. Et ceci n'était pas spécialement un incitant pour ces pays à investir dans l'agriculture et à donner à leurs agriculteurs les moyens de produire. Je pense qu'il faut revenir sur ceci. Je pense qu'il faut maintenant réinvestir dans l'agriculture vivrière, donner aux petits producteurs les moyens de produire mieux, et beaucoup peut être fait dans cette direction, puisque on a dans bien des cas d'énormes gains de productivité qui peuvent être faits avec des investissements relativement minimes, mais qui peuvent être tout à fait importants pour réduire la pauvreté rurale.
Je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce magazine. Je rappelle que nous avions en ligne, en direct de Madagascar, le ministre de l'Agriculture, monsieur Ravatou Mangue. Ensuite, nous avions à Rome monsieur Olivier de Schutter, qui est le rapporteur spécial du secrétaire général des Nations Unies, et en direct de Dakar, monsieur Mamadou Bité, le directeur régional d'Oxfam, l'une des plus importantes confédérations internationales d'ONG. Puis, enfin, à Yaoundé, monsieur Samuel Ngifotene, qui est le responsable du Centre pour l'environnement et le développement au Cameroun. Merci monsieur d'avoir accepté de participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook que Twitter de l'émission. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Ce magazine vous a été proposé par le groupe Encia, assurance et banque, présent dans 11 pays d'Afrique subsaharienne.